la question. Jean-Yves Casgat.
Et si l'on construisait un monde meilleur ? 50 personnalités, parmi lesquelles de nombreux scientifiques, ont accepté qu'une photographe, engagée dans l'environnement et la santé, réalise leurs portraits et recueille leurs messages pour un monde meilleur. Avec une photo, un regard, un mot, une phrase, un texte, on peut changer le monde. Autour de Sylvia Tostin, nous recevrons Jean-Marie Pelt, botaniste, Chilérique Serralini, biologiste, Christian Vélo, généticien et Dominique Bellepomme, cancérologue. De magnifiques échanges entre ces scientifiques qui combattent pour les générations futures que nous vous proposons de réécouter ce vendredi sur RFI. Bonjour Sylvia Tostin.
Bonjour Jean-Yves Casgat.
Alors, un parcours dans la photographie, c'est ça ? Plutôt la télé, les shootings comme on dit.
Oui, oui, tout à fait.
Et puis tout d'un coup, un livre d'artiste écolo, on peut dire ?
Oui, 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 on peut dire ça comme ça, effectivement. Ouais.
Parce que c'est un regard, c'est la photo est très importante.
Oui, alors le livre, en fait, c'est un livre de portraits, principalement. Mmh. Donc les portraits des 50 personnalités que j'ai choisi de photographier pour parler d'environnement, de la nature, de la santé, et des sujets qui m'intéressent depuis de longues années. Et puis, pour présenter ces portraits, donc j'ai réalisé des photos en noir et blanc, parce que j'aime beaucoup la photographie noir et blanc, et notamment le portrait en noir et blanc. Mais je ne voulais pas faire un livre en noir et blanc pour parler d'environnement. L'environnement est haut en couleur et j'avais envie de couleur, voilà.
Donc, et puis on dit bien la planète bleue, donc et déjà.
Exactement, donc on dit la planète bleue. Donc il y avait toute une symbolique et dans ma démarche de présenter ces photos sur ces portraits en fait sur des fonds aquatiques. Et là, j'ai demandé à un photographe spécialiste de photographie aquatique et de plongée sous-marine qui s'appelle Frédéric Di Meglio de m'aider en fait à monter cet ouvrage avec en mettant à ma disposition en fait ces photos, et ça fait un livre haut en couleur avec voilà des belles personnes et des beaux fonds sous-marins et plus. C'est vrai que souvent on voit des livres d'environnement qui parlent d'environnement avec des photos de nature, ce qui est assez logique en fait, hein, et ce qui est très beau, mais moi j'ai eu envie de parler d'environnement différemment, à savoir en mettant en avant les personnalités qui se battent en fait pour l'écologie et la santé, parce que j'aurais pu demander à des personnalités connues du monde du showbiz ou quoi de laisser un message pour un monde meilleur, mais j'ai choisi en fait par rapport à mon engagement personnel et à ce que moi j'avais envie de dire de taper directement à la porte des personnes qui sont vraiment réellement engagées dans ces combats et pour lesquelles d'ailleurs j'ai beaucoup d'admiration. Voilà, je trouve que leurs combats sont courageux et qu'ils méritent vraiment d'être connus du grand public. Alors certains le sont, mais d'autres moins. Et dans ce livre, je rassemble en fait des personnes qui sont connues, telles Jean-Marie Pelt ou encore Nicolas Hulot, José Bové ou Corinne Lepage, pour n'en citer quelques-uns, et puis d'autres personnes moins connues.
Eh bien, ça tombe bien que vous parliez de Jean-Marie Pelt, parce que on l'a en ligne. Jean-Marie Pelt, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à Sylvia et à Jean-Yves Casgat.
Bonjour Jean-Marie.
Alors, vous êtes le président de l'Institut européen d'écologie, vous êtes un grand botaniste, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté cette démarche un peu différente de poser en photo, et puis aussi de donner un message ?
Ben écoutez, parce que Sylvia a été très convaincante et que j'ai été très heureux de répondre à son invitation, et ça s'est fait lors d'un déplacement à Paris, et puis délivrer un message, c'est quand même toujours très utile lorsqu'on est dans une société dont on sent quand même qu'elle est un peu à bout de souffle.
Est-ce que vous sentez vraiment l'utilité de délivrer des messages ?
Oui.
Vous n'avez pas l'impression que ça fait longtemps qu'on délivre des messages et qu'il ne se passe pas grand-chose ?
Oui, aussi. Mais je crois quand même que l'opinion publique évolue beaucoup et qu'elle est en grand décalage, par exemple par rapport aux élections présidentielles où on délivre pas de messages. Je pense que la grande majorité des gens ressent ou comprend qu'il va falloir faire tout autrement et que on arrive à des impasses, et quand on pense aux enfants et à leurs enfants, on se sent vraiment responsable du monde dans lequel ils vivront.
C'est presque un message grave, Jean-Marie Pelt.
Oui, ben je suis entièrement orienté vers l'avenir. Bon, je ne suis pas quelqu'un qui me réjouit des innombrables commémorations dont nous avons vraiment le talent en France. Moi, je pense qu'on ne regarde pas assez l'avenir, que nous offrons à nos enfants un monde qui n'aura plus beaucoup de ressources, où on risque d'être très pauvre, un monde qui sera peut-être très pollué, un monde dont le climat sera peut-être gravement perturbé, et ça ne nous donne pas le droit de le faire. Donc je pense qu'il est déjà tard, mais qu'un changement radical doit maintenant se faire. Et j'ai longtemps cru, enfin depuis 2007, que les politiques allaient s'atteler vraiment à cette tâche. Bon, je vois que c'est encore trop tôt, qu'on est encore dans l'immédiateté des choses. Alors bien sûr, quand il y a une crise, il faut répondre tout de suite à la crise. On pense à la crise économique. Mais il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a derrière cette crise immédiate, dont on ne parle pas dans les présidentielles d'ailleurs, ce que je trouve extraordinaire, il y a une crise systémique, une crise globale, qui nous invite à modifier complètement notre manière de fonctionner.
Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une des phrases qui est dans « Message pour un monde meilleur », je vais vous la lire. Vous avez dit « Derrière nous, la civilisation de la technologie reine et de l'argent qu'elle génère, en route, avec nos enfants, vers la civilisation de l'amour. »
Ben voilà. On se rend bien compte que c'est l'argent qui mène tout, que c'est l'argent qui produit les technologies, puisqu'on fait semblant de croire que l'avenir de l'humanité, c'est la technologie. Non, l'avenir de l'humanité, c'est de toute évidence un progrès moral, éthique, spirituel des humains pour qu'ils arrivent sur cette terre, petit un, à vivre en paix entre eux, petit deux, à ne pas détruire la nature qui les fait vivre.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Marie Pelt, parce que je vois que finalement vous êtes un incorrigible optimiste. Hein. Vous, votre message pour un monde meilleur, c'est quand même d'avoir un gros, gros, gros espoir pour le futur.
Oui, en tout cas, à être engagé à 100% dans cette mission.
Merci Jean-Marie Pelt.
Merci beaucoup.
RFI, ensemble, parcourons le monde.
Je lui salais.
autour de la question, Jean-Yves Casga.
Je veux du soleil, Sylvia Tostin. J'imagine que vous en voulez aussi, du soleil.
Oui, je voudrais du soleil. Je voudrais surtout voir, comme dit Jean-Marie Pelt, l'avenir s'éclairer pour nos enfants.
Vous n'êtes pas que photographe, vous êtes aussi maman. Donc, vous, la question de l'avenir se pose de manière encore plus forte, non ?
Oui, oui, bien sûr. Comme je vous disais, j'ai conscience depuis très très longtemps des dérives du système dans lequel on est, le système industriel. Et effectivement, j'ai beaucoup hésité, pour tout vous dire, à faire un enfant, parce que je savais déjà beaucoup de choses. Et je me disais, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux faire un enfant dans le monde qu'on est en train de préparer ? On aimerait, on a envie d'être optimiste. Moi, je suis optimiste et j'ai envie de me battre, j'ai envie, et c'est pourquoi...
D'ailleurs, ce livre est la preuve.
Voilà pourquoi j'ai fait ce livre. Donc, je suis une incorrigible optimiste, mais je suis réaliste. Voilà. Et le réalisme, ça consiste pas à dire tout va bien, parce que non, tout va pas bien. Quand on est au courant des sujets, on ne peut pas dire que tout va bien. Donc effectivement, je me battrai autant que je pourrai et ce livre fait partie de mon combat. Oui.
Mais pourquoi s'adresser à des scientifiques par exemple ?
En fait, pour tout vous dire, je voulais être médecin quand j'étais jeune. Voilà. Hum. Et donc, je n'ai pas pu parce que je n'étais pas très douée en maths. Et donc voilà, donc c'est vrai que pour moi, les scientifiques sont importants. Ils ont une parole et une valeur qui leur est des connaissances qui leur sont incontestable et pour moi c'était important qu'il soit aussi dans ce livre qui donne la parole à plusieurs personnalités d'univers différents et la science est un univers bien entendu important et leur parole donne du crédit enfin voilà et donc il y a des personnalités formidables je trouve leur combat vraiment courageux et remarquable et parmi lesquelles Jean-Marie Pelt mais aussi des personnalités qui se battent sur le sujet des OGM d'autres sur les pesticides d'autres sur le nucléaire d'autres, voilà. Et en fait, il y a plein de thèmes abordés. Et voilà, donc je raconte un petit peu à travers les thèmes.
Parce qu'il est scénarisé, le livre. Hein.
Oui, voilà.
Vous racontez une histoire, en quelque sorte.
Voilà, je raconte un peu, on va dire à ma manière, l'histoire de la Terre malmenée par la main de l'homme qui a oublié son interdépendance avec la Terre qui le nourrit. Et donc, il s'articule à travers des thèmes, des thématiques. Je commence par raconter un petit peu l'état des choses et pourquoi j'ai fait ce livre. J'enchaîne sur les peuples autochtones. Pourquoi les peuples autochtones ? Parce que depuis, je dis d'ailleurs au début du livre, depuis les Indiens que nous sommes allés décimer jusqu'à aujourd'hui, n'ont cessé de nous alerter sur la manière dont nous traitons notre Terre. Et en fait, en France, voilà, on a aussi des lanceurs d'alerte qui sont dans ce livre et à qui je donne la parole.
Eh bien, un lanceur d'alerte, je crois qu'on en a un au bout du fil. Bonjour Christian Vélo.
Bonjour Sylvia.
Bonjour Christian.
Alors, Christian Vélo, vous êtes membre du conseil scientifique du CRIGEN, vous êtes donc aussi à la Fondation Science Citoyenne, et donc ça c'est vraiment lanceur d'alerte. Votre formation donc biologie, génétique moléculaire, c'est ça ?
Absolument.
Et tout à l'heure, Sylvia disait OGM pesticides. Je crois que ça fait partie des choses contre lesquelles vous essayez de vous battre, c'est ça ?
Absolument, oui, absolument. Parce que en tant que généticien moléculaire, en tant que biologiste, je suis utilisateur, comme tous les collègues de ma discipline, de la technologie OGM, qui est avant tout un outil au service du chercheur pour mener à bien ses activités de recherche. Mais ensuite, tous ces outils au service du chercheur sont déclinés dans différents domaines d'application, et notamment dans le domaine, en ce qui concerne donc la technologie OGM, dans le domaine agroalimentaire. Et pour faire des OGM toutes les semaines dans mon labo, donc pour utiliser cette technologie en tant qu'outil, je sais à quel point autant ça peut être un outil intéressant, autant c'est une technologie qu'on ne maîtrise pas, avec des effets collatéraux qu'on est incapable de prévoir, et donc je trouve totalement irresponsable de mettre ces OGM dans les champs et dans les assiettes, et donc j'ai considéré que c'était mon rôle de scientifique et de citoyen de m'élever contre ça et d'aller alerter le grand public sur les risques sanitaires, environnementaux, mais pas seulement, que représente donc cette technologie, parce que en fait, on est dans un contexte fantasmatique du progrès, où on considère que tout ce qui sort d'un laboratoire est forcément bon pour l'humanité, parce que c'est le produit d'une activité de recherche, alors que c'est avant tout des choix de société, et que les citoyens sont souvent mis devant le fait accompli, et je trouve ça absolument scandaleux, et donc, depuis plus de 10 ans, j'ai parcouru la France entière, et un peu plus pour aller justement sortir du laboratoire et pour établir ces passerelles qui manquent tant entre la recherche institutionnelle et ce qu'on appelle le tiers secteur scientifique, c'est-à-dire pour remettre effectivement donc la science au service du bien commun, au service du citoyen, et pour que le citoyen s'approprie ces thématiques pour qu'il puisse véritablement en débattre pleinement.
Mais Christian Vélo, est-ce que vous voulez dire qu'il est trop tôt pour les mettre dans la nature et les utiliser, parce que précisément on ne maîtrise pas tout sur les OGM, ou bien que, bon, il faut arrêter. Est-ce que c'est qu'on n'est pas assez équipé technologiquement, ou bien c'est que, bah, de toute façon, ça c'est un truc qu'il ne faut pas approfondir, ça, c'est fini, quoi.
Alors, je crois qu'il y a deux choses. Le fait est que des OGM, il y en a déjà partout. Enfin, pas partout, heureusement. On essaie de nous faire croire qu'il y en a partout pour faire croire que c'est plus la peine de se battre. Non, il y en a pas partout. Il y a 80% des OGM sur le continent américain. Mais la plupart des citoyens sont confrontés aux OGM à travers l'alimentation. Et donc, il est important de se battre aujourd'hui pour qu'il y ait une véritable évaluation sanitaire sérieuse, parce qu'aujourd'hui, ces OGM font l'objet d'une évaluation, d'une carence et d'une opacité d'évaluation qui sont absolument scandaleuses. Mais par ailleurs, je me bats justement pour que cette technologie n'ait pas sa place dans le domaine agricole. Effectivement, je ne pense pas que les OGM seront bons demain, ils ne le sont pas aujourd'hui pour le domaine agricole, parce que en fait, on est dans une fuite en avant. Fuite en avant dans laquelle s'inscrit l'agriculture, dans laquelle s'inscrit la technoscience depuis des décennies, c'est-à-dire qui consiste à penser qu'on va résoudre les problèmes environnementaux, sanitaires causés par l'activité humaine, causés par les technologies, en faisant appel à des nouvelles technologies qui sont elles-mêmes génératrices de problèmes environnementaux et sanitaires. On va dans le mur et les alternatives, elles sont ailleurs, et notamment dans le domaine agricole. Les alternatives, on pourra en trouver, des alternatives subtiles, moins invasives que l'artillerie lourde des OGM, si les chercheurs daignent sortir de leur laboratoire et interagir avec ceux-là même qui ont inventé l'agriculture, qui ne sont pas les chercheurs ni même les agronomes, mais qui sont les paysans. Il faut qu'il y ait une véritable recherche participative pour mettre au point des stratégies qui soient absolument respectueuses des bonnes vieilles pratiques paysannes qui sont elles-mêmes respectueuses de l'environnement. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Le problème, c'est que tant que ça sort pas d'un laboratoire avec des gens en blouse blanche, ça s'appelle pas le progrès. Alors qu'on a tendance à oublier que les premiers généticiens du monde sont les paysans. Donc il faut changer cette vision du progrès que l'on a aujourd'hui. Et on confond modernité et progrès. La bombe à neutrons, c'est peut-être moderne. Pour moi, ce ne sera jamais le progrès.
Christian Vélo, pour avoir un résumé de ce que vous dites, pensez, défendez, c'est dans Message pour un monde meilleur. Et si on veut creuser davantage, je crois que vous avez publié OGM, un choix de société aux éditions de l'Aube, c'est ça?
Oui, j'ai publié OGM, tout s'explique aux éditions Gouttes de Sable en 2009 et OGM, un choix de société aux éditions de l'Aube en 2011. Et pour les personnes que ça intéresse, si elles veulent savoir où est-ce que je fais des conférences, eh bien en général, il suffit d'aller consulter le site de mon premier éditeur, Gouttes de Sable, dans la rubrique conférences, et elles sont en général annoncées un mois à l'avance. Et le message que je veux vraiment faire passer, c'est de continuer à résister contre tous ceux qui sont capables d'hypothéquer les générations futures et la planète au nom d'intérêts mercantiles à court terme. Il faut résister, et dans la résistance, il y a aussi la désobéissance.
Merci Christian Vélo.
Ouais, et merci à Sylvia pour ce livre qui réunit des gens qui ne sont pas forcément tous d'accord sur les solutions, mais qui sont tous d'accord sur les constats et les différences dans les solutions qu'ils proposent. Ça, c'est merveilleux également, parce que en fait, ce sont des îlots de résistance différents, et c'est la convergence de ces îlots de résistance qui font que le pot de terre résiste contre le pot de fer. Donc bravo Sylvia.
Salut Christian Vélo, c'est l'heure des informations sur Radio France International. On se retrouve dans 3 minutes, ce sera juste après le journal.